France Inter, le 18-20.
C'est lui qui a utilisé le terme acte 2, le Premier ministre, dans son discours de politique générale, on va dire ça comme ça. Il a même parlé de changement de méthode, il a reconnu qu'il y avait eu trop d'arrogance, il a parlé de justice sociale, fermant tous ses guillemets. Pour le reste, on a bien compris pourquoi c'est l'écologie qui a été mis en tête de gondole. Par les temps qui courent, on peut difficilement faire différemment. On y viendra. Ensuite, il a parlé de mesures qui sont dans le programme depuis longtemps, mais qui désormais sont, disons, plus détaillées ou bénéficient pour certaines au moins d'un calendrier. Sur les retraites, sur l'assurance chômage, sur la PMA pour toutes, qui sera enfin discutée au Parlement à la fin du mois de septembre. Et donc, bonus-malus pour les recours trop fréquents au CDD. Beaucoup de questions déjà dans ce sens-là. Beaucoup aussi autour de cette fameuse retraite à 62 ans, avec un gros mais désormais, la fin des régimes spéciaux, les 27 milliards en moins sur les impôts, notamment sur la première tranche. On y reviendra dans l'ordre que vous voudrez. Qu'est-ce que vous dit, vous, cet acte 2? Qu'est-ce qu'on y apprend? À quoi faut-il surtout s'attendre quand les réformes seront mises en place au fur et à mesure? Donc, dès l'année prochaine, on est parti. Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Allez, Jackie, c'est vous qui commencez. Bonsoir, bienvenue au téléphone sonne, Jackie.
Bonsoir Fabienne Synthès et bonsoir France Inter. Toujours ravi par l'actualité de vos émissions. Alors ma question, c'est, il a fallu quand même la démission de Nicolas Hulot, qu'on a qualifié, excusez du peu, mais de fébrile, de pas aguerri à la joute politique. C'est quand même quelqu'un qui a nagé avec les requins, qui a organisé la COP21 et avec le succès que l'on sait. Alors, et puis les convictions qu'il a quand même, c'était quand même assez scandaleux d'entendre toutes ces réflexions après sa démission. Mais il a fallu quand même qu'il y ait sa démission pour qu'il y ait un électrochoc dans la société et qu'on dise enfin quand même l'écologie, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut mettre au cœur des sociétés. C'est-à-dire que le développement qu'on nous présente avec cette croissance infinie brûle les ressources et qu'il faut absolument changer de braquet et aller vers une société qui soit beaucoup plus vertueuse, parce que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis la crise de 2008, et malheureusement, on est à presque 100 millions de barils par jour aujourd'hui, alors qu'on était à 87.
Alors, ces chiffres-là, on les connaît, Jackie, juste en un mot, est-ce que vous y croyez, vous, à ce virage vert ou pas?
Alors, justement, je voudrais savoir si effectivement il y a une volonté politique dans ces discours, dans ces annonces d'hier. Par exemple, Jean-Marc Jancovici, qui est bien connu chez vous notamment et parmi les Français, proposait d'isoler les bâtiments, de faire un grand plan de 100 milliards d'euros d'investissement pour l'isolation des bâtiments. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a véritablement des volontés de changer cette façon de produire? Est-ce un leurre, ces annonces, ou bien est-ce que la préservation de la vie et des ressources et de la biodiversité sont véritablement rentrées dans le logiciel du gouvernement?
Merci beaucoup, Jackie. Vous n'êtes pas le seul à poser cette question. Nous avons Martine, par exemple, qui dit que le Premier ministre effectivement a beaucoup parlé d'écologie juste après le succès des Verts aux Européennes. Peut-on craindre que ce ne soit que pour plaire, etc. Il y en a beaucoup des questions qui vont dans ce sens-là. Pour répondre à celle-ci, mais aussi à toutes celles qui viendront jusqu'à 19h, Françoise Fressot, c'est là. Bonsoir, éditorialiste au Monde. Bonsoir. Mathieu Plane est là également. Bonsoir Monsieur Plane, économiste. Bonsoir. À l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et Yael Gauze, chef du service politique de France Inter.
Bonsoir Fabienne.
Françoise Fressot, je commence avec vous. C'est vrai que je disais tout à l'heure en introduction, on peut difficilement ne pas mettre l'écologie en tête de gondole aujourd'hui, c'est ce qu'a fait le Premier ministre. Et en revanche, on va le regarder effectivement sur la crainte de ce qu'on appelle le greenwashing. C'est vraiment là-dessus qu'il va être réellement observé.
Oui, alors je pense qu'il y a une évolution sincère de sa part, dans la mesure où il y a eu effectivement la démission de Nicolas Hulot, qui a quand même sensibilisé l'opinion. Et puis il y a eu ces résultats des élections européennes, où je pense que ce qui a beaucoup frappé Emmanuel Macron, c'est le vote jeune, c'est-à-dire que les jeunes ont voté pour Yannick Jadot, alors que jusqu'à présent, ils étaient plutôt tendance à aller vers Marine Le Pen. Donc, au fond, Emmanuel Macron avait organisé la confrontation entre les progressistes et les conservateurs, et au fond, il y a un troisième acteur qui est en train de naître, c'est l'écologie. Et il faut qu'ils s'en saisissent. Donc, Édouard Philippe l'a fait à sa façon, c'est-à-dire en faisant une sorte de mea culpa, en disant on m'a reproché de pas l'être. C'est vrai que j'ai travaillé à Areva, peut-être que j'ai quand même été maire du Havre et je peux m'y mettre sincèrement. Alors, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est il bouge pas sur le nucléaire du tout. Hein, il fait pas non. plus que il bouge pas sur le charbon non plus, pas plus que ce qu'il a annoncé, pas plus sur Fessenheim. Là où il met l'accent, ce qui est intéressant, c'est au fond l'écologie au quotidien. C'est on va essayer de se débarrasser des plastiques, on va faire une administration zéro plastique. Et je pense que c'est aussi l'idée d'aborder l'écologie de façon moins punitive que jusqu'à présent pour essayer d'en faire en sorte que la société tout entière s'en imprègne. Il y a aussi l'idée du jury citoyen qui va être appelé à dire qu'est-ce qu'on fait après la taxe carbone, qu'est-ce qu'on relance. Il peut y avoir après un projet de loi ou un référendum. Et puis, il y a ce conseil de défense énergétique qui est quand même écologique, où chaque mois, sous l'autorité du président de la République, se réunissent des ministres qui font le point sur l'évolution de leur dossier. Donc, il y a une conversion qu'on peut juger timide, mais je pense qui est absolument nécessaire, parce que sinon, Emmanuel Macron va perdre une bonne partie de l'électorat dont il a besoin.
Mathieu Plaine, ce que je lis aussi, ce que j'ai entendu aussi de la part du Premier ministre sur ces questions-là, c'est une économie de marché sans détruire l'environnement, c'est possible. Ça veut dire que au-delà, et contrairement d'ailleurs à ce que disait notre ami Jackie tout à l'heure au téléphone, on ne change pas de logiciel, non. Hein, du tout.
Non, je suis d'accord. D'ailleurs, il l'a bien affirmé. Il a dit je suis pour la croissance, je ne suis pas un décroissant.
C'est ça. Il l'a formulé donc, comme ça, en effet.
C'est juste de dire il veut une économie de marché avec de la croissance, mais une économie plus sobre. Et donc, c'est comment organiser cette transition énergétique. C'est vrai qu'on voit que ça a été mis en tête de gondole. Hein, ça a été le premier, justement, axe qui a été extrêmement développé, avec des choses qui sont vraiment proches du terrain, pour un certain nombre de choses. Maintenant, c'était des choses qui étaient déjà, pour beaucoup, connues ou annoncées. Hein. Il n'y a pas eu non plus une révolution verte à travers les annonces.
Comment on fait pour accélérer, par exemple, les éoliennes offshore qui sont coincées depuis très très longtemps, alors, coincées juridiquement par ailleurs. Donc, de toute façon, pour l'instant, le déblocage n'est pas pour demain non plus.
Le déblocage est compliqué. La prime à conversion, elle avait été déjà annoncée suite à la crise des gilets jaunes. Le 100% recyclable sur les plastiques, c'était aussi dans les tuyaux. Le Nutri-Score, pareil. Donc, c'est vrai que ça a été plutôt une mise en avant des mesures qui sont soit qui ont été prises, soit qui vont venir. On peut pas dire qu'il y a eu une annonce d'un grand plan d'investissement vert dans, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, sur une production effectivement très forte d'énergie renouvelable. Il y a des objectifs qui sont tenus, mais c'est surtout plutôt que c'est maintenant un affichage assez marqué comme une priorité. Derrière, les mesures ne sont pas extrêmement surprenantes. Et surtout, il y a quand même une question très très délicate. C'est que la fiscalité écologique aujourd'hui est un levier qu'on ne peut plus utiliser, en tout cas que le gouvernement ne peut plus utiliser, alors même que on voit bien qu'il faut donner un prix au carbone et tout ça devient extrêmement délicat.
Yael Gauz, hein.
La clause de revoyure, elle est en janvier 2020 quand la convention citoyenne, les 150 Français tirés au sort, on en parle toujours, c'est abstrait aujourd'hui, mais ça va arriver là d'ici le mois de juillet, 150 Français tirés au sort qui auront 6 mois pour faire des propositions plus concrètes. Et c'est là qu'on aura ce que Pascal Canfin appelle un plan Marshall pour la rénovation thermique des logements. C'est à l'issue de ça qu'apparaîtront ou n'apparaîtront pas les mesures qui sont un peu en suspens. Il y a de la réelle politique, évidemment, dans ce que fait Édouard Philippe aujourd'hui. Il est entouré d'écologistes sincères à En Marche. Vous avez Daniel Cohn-Bendit, vous avez évidemment Pascal Canfin, l'ancien directeur général du WWF. C'est de la réelle politique. Bruno Le Maire, lui-même, se confie et dit « Ce sont mes enfants qui me poussent aujourd'hui à être écolo. » On n'a pas le choix, en fait. C'est la jeunesse qui pousse. Et dans le discours d'Édouard Philippe cet après-midi, il dit « Les jeunes nous poussent à ça. » Donc c'est aussi pour ne pas décrocher d'un électorat futur qui se mobilisera au municipal ou pas, qui est en concurrence aujourd'hui, on l'a vu aux européennes. Il y a eu une déperdition très forte du côté d'En Marche sur les électeurs de gauche ou écologistes qui sont allés sur Yannick Jadot. Donc oui, réelle politique, à l'aune de ce qui se passe aussi en Allemagne, Macron et Philippe regardent ce qui se passe en Allemagne. Ils voient aujourd'hui dans les sondages que potentiellement le chancelier pourrait être vert s'il y avait une élection au suffrage universel direct. Et forcément, ça les inspire.
Et en même temps, vous disiez effectivement qu'il s'adresse à une partie de ceux qui peut-être l'ont quitté. Françoise Fressos, moi j'ai eu le sentiment qu'il ne parlait qu'à sa large majorité, au fond, dans ce discours-là, Édouard Philippe.
Alors, ce qui est sûr, c'est que je pense que il est dans la séquence post-européenne où il a vu qu'une partie de l'électorat de droite avait quitté la droite pour aller du côté de La République En Marche, et qu'au fond, il s'est senti assez conforté pour dire « Je suis aussi là pour approfondir le travail que j'ai commencé ». Il s'est beaucoup mis en avant sur la fidélité aux promesses de réforme. Il a beaucoup insisté sur le monde d'avant qui n'avait pas suffisamment réformé, et donc il a approfondi les réformes. Il en a annoncé des importantes, notamment la réforme des retraites dont on donnait pas cher pendant le mouvement des gilets jaunes, la réforme de l'assurance chômage. Donc voilà, il a quand même, je pense aussi, adressé un message fort à l'électorat bas des classes moyennes, qui est l'électorat privilégié de Marine Le Pen. Ils ont, je pense qu'ils craignent en Macronie un décrochage de cette classe moyenne qui pourrait voter Marine Le Pen. Donc, ils ont fait des gestes en direction, notamment avec l'impôt sur le revenu, 5 milliards d'euros, centré sur la première tranche et puis un petit peu sur la deuxième tranche. Aussi, je pense sur ce discours sécurité, protecteur, un débat annuel sur l'immigration. On sent aussi que ça, c'est une partie des préoccupations de cet électorat-là. Donc, moi, je dirais, il consolide l'électorat des européennes et il essaye de donner des gestes, des signaux à ceux qui ont beaucoup souffert et qui se sont manifestés lors du mouvement des Gilets jaunes.
Et avant d'entrer justement dans le gras, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus, effectivement, les retraites, les CDD, le bonus-malus, etc., juste un dernier mot de forme, Yaël, est-ce que c'est pour répondre à cet électorat-là dont parle Françoise, qui l'a dit, nous pouvons faire mieux, nous avons été trop arrogants, nous devons nous respecter. Il y a eu ce passage-là quand même à un moment aussi.
C'est l'épreuve des Gilets jaunes. Ça vient en filigrane plusieurs fois. Il faut lire aussi ce discours, l'écouter, à l'aune de la crise des Gilets jaunes. Il y fait référence à plusieurs reprises. Il y a un avant et un après. L'acte 1 était trop arrogant, on a trop réformé dans l'urgence. L'acte 2 doit être celui de la concertation, des corps intermédiaires. D'ailleurs, il le dit.
Mais est-ce que c'est forcément celui de la jambe gauche? Est-ce que c'est forcément l'acte 2 de la jambe gauche? Pas forcément.
Non,
Mathieu
Plane
vous voit faire boum comme ça.
C'est associé à la fabrique de la loi. Ah, c'est un slogan. Après, dans le détail, on verra que c'est très compliqué sur les retraites ou l'assurance chômage, où les partenaires sociaux ont lâché l'affaire.
Mathieu Plane. Surtout, on n'est pas rentré dans le dur, pour moi. C'est-à-dire que les mesures, effectivement, de baisse de l'impôt ont été annoncées, assez précisées, rappelant que c'était 350 euros pour la première tranche, que c'était 27 milliards au total pour l'ensemble des ménages, qui est quand même conséquent une fois qu'on ajoute la taxe d'habitation et l'ensemble des autres mesures. Par contre, voilà, les réformes ont été annoncées, mais ça reste pour le moment très technique. Quand on parle de la réforme des retraites et de modifier, on garde l'âge légal, mais on crée un âge pivot, par exemple, à 64 ans, il va falloir dire ce que ça fait pour le retraité qui, normalement, aurait pu prendre sa retraite à taux plein à 62 ans. Quand on va faire l'assurance chômage, il va falloir expliquer aussi aux cadres qui potentiellement peuvent cotiser plus, mais pas avoir le même niveau de prestation qu'auparavant. Donc, pour le moment, je dirais que sur les mesures qui brossent plutôt le pouvoir d'achat, qui brossent la classe moyenne, on a eu du concret. Maintenant, sur les mesures qui vont être plus dures et qui vont dans le financement, qui vont expliquer aussi où est-ce qu'on trouve les économies, on n'est pas rentré dans le concret pour moi.
Comment va-t-on faire pour travailler au-delà de nos 65 ans, nous dit Daniel, nous serons tous trop vieux et plus vraiment en forme. Il y a beaucoup de questions aussi autour de ces choses-là. D'abord, effectivement, c'est ce que vous disiez, Mathieu Plane, est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus concret sur ce fameux âge, effectivement, qui reste à 62 ans? On sent bien que, symboliquement, on garde l'âge à 62 ans, mais on a bien compris qu'on partirait plus jamais à taux plein à 62 ans. Donc, est-ce que la mécanique, est-ce qu'elle est complètement inconnue? Est-ce qu'elle est encore fluctuante, variable ou pas?
Non, mais d'abord, je pense que le chantier est pas fermé, c'est-à-dire que...
C'était le sens de ma question dans la variabilité.
Après, j'ai pas les éléments très précis. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a un début de contour. C'est-à-dire que, très clairement, l'âge légal va rester 62 ans. C'est assez important et symbolique de rester 62 ans. Mais un moyen de faire des réformes, c'est de créer des phénomènes de surcote et de décote. C'est-à-dire de faire en sorte que les gens restent plus longtemps s'ils veulent avoir une retraite à taux plein et avoir même des surcotes s'ils vont au-delà. Et donc ça génère des économies sans toucher à l'âge légal. Mais je suis pas sûr que pour les gens ce soit très concret encore. Ce type de système, il va falloir l'expliquer pour un salarié qui a commencé à 20 ans, qui a 42 ans de cotisation, qui pourrait prendre à 62 ans, qu'est-ce qui se passe pour lui avec cette réforme-là. Donc il y a ces mesures-là à préciser, on n'a pas tout le contour, on a eu des débuts d'éléments. Et juste pour terminer, c'est que la question des retraites, au début, n'était pas une question budgétaire. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire pour l'instant, c'était une réforme dite structurelle, de modification du système, d'un système de régime, comme on est par répartition, un régime par point, avec des fusions de régimes, etc. Mais avec enveloppe budgétaire constant. Là, on sent quelque chose quand même qui est, c'est avec un objectif désormais aussi de réaliser des économies. Et donc, ça va être un peu le jeu d'équilibriste de dire, attention, d'un côté, il y a la soutenabilité du système financier, donc il faut faire des économies, et de l'autre côté, c'est la réforme structurelle. Pareil pour les Français, il va falloir quand même aussi bien expliquer, être très clair.
Est-ce que c'est ça, Françoise Fressoz, la chose la plus explosive, on va dire? On dit toujours que les retraites, effectivement, c'est ce qui peut faire sauter un gouvernement.
Je trouve que c'est un sujet explosif parce que on va changer quand même complètement de système. Hein. Maintenant, ça va être un système à points. Alors, pas tout de suite. Hein. C'est-à-dire que la réforme va être étalée dans le temps, mais il va quand même y arriver à une tranche d'âge où finalement, vous allez comparer entre ce que vous touchez dans le régime actuel, ce que vous pourriez espérer du régime actuel et ce que vous allez toucher dans le nouveau système. Or, le Premier ministre a quand même donné des précisions. Il a dit normalement, la réforme, elle se fait à budget constant et on va essayer de faire en sorte que les inégalités soient moins fortes entre les hommes et les femmes, qu'elles soient moins fortes entre certaines catégories de personnes. Donc, je pense qu'il y aura des perdants dans cette réforme. Et ça non plus, on ne le sait pas encore aujourd'hui. On ne sait pas l'ampleur. Donc, si vous avez une réforme avec des perdants et qu'en plus, vous ajoutez à ça l'idée que vous pouvez partir à 62 ans, mais en fait, ce n'est pas vrai, vous partirez plus tard à 64 ans, sans doute, parce que vous serez obligé de payer une décote. C'est là que ça va devenir très compliqué. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi ils ont sorti le projet sur la dépendance. C'est-à-dire qu'il y a l'idée quand même de faire maturer la société française sur l'idée qu'on est dans le vieillissement est quand même le phénomène majeur qui va complètement secouer nos finances publiques et que après la retraite, il y a le financement de la dépendance et tous les gouvernements ont plutôt mis ça sous le tapis parce que c'était trop compliqué. Et donc je pense que le fait de mettre l'idée de dire il y a peut-être 20 milliards d'euros à trouver pour la dépendance, ça peut aussi faire maturer les esprits pour dire, bon, on peut plus s'accrocher à un départ à 62 ans, il va falloir s'habituer à travailler plus et plus longtemps.
La fin des régimes spéciaux, également, on parlait de choses symboliques, Yael Gauz, est-ce qu'on se battra pour maintenir les régimes spéciaux?
Il y a plein de paradoxes quand on lit bien ce discours en réalité, quand on dit qu'il tire les leçons des gilets jaunes, qu'il faut être plus près des retraités, plus près des Français qui sont éloignés des territoires, et là, on s'attaque effectivement avec cette idée d'âge pivot à 64 ans, à quelque chose qui n'est pas forcément amical au premier abord. On va retrouver les paradoxes du macronisme dans cet acte 2. L'assurance chômage, c'est pareil. Mardi à Genève, devant l'OIT, on a Emmanuel Macron qui fait tout un couplet sur le capitalisme devenu fou et qui dit qu'il faut que les droits sociaux l'emportent, prévalent sur la dette et les sujets d'ajustement économique. Je reprends ces mots, là, je les cite. Et le lendemain, on découvre que dans la réforme de l'assurance chômage, bien sûr qu'il va y avoir un durcissement des conditions d'accès aux allocations, il faudra travailler plus pour avoir accès, et puis une dégressivité, ce qui est un concept nouveau dans une logique qui n'est plus une logique assurantielle. Donc il y a derrière le discours de politique générale, il y a à l'intérieur des paradoxes qui vont très vite apparaître.
On reste sur le sujet avec Catherine. Bonsoir Catherine.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Catherine.
Je vous appelle parce que je comprends pas bien la logique des politiques. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. La première chose que je me dis, c'est les gens, ils n'ont pas forcément envie de bosser encore et encore et encore. D'autre part, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du boulot, donc ça serait peut-être bien de leur laisser la place. Deuxièmement, moi je fais du coaching professionnel et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens autour de 60 ans qui n'ont qu'une envie et qu'un besoin physique d'arrêter de bosser. Donc ces gens-là sont obligés de se péter des arrêts maladie. Est-ce que c'est bien intéressant? Et la troisième chose, j'aimerais bien qu'on se pose la question dans notre société, mais visiblement c'est encore le vieux monde qui persiste. Pourquoi on diminue pas les temps de travail? Voilà.
Merci Catherine pour votre intervention, Mathieu Plane, sur cette logique de beaucoup de nos auditeurs. Effectivement, quand on regarde les choses comme ça tombe sous le sens. Comment ça? Il y a autant de chômage et il faut travailler plus longtemps.
Non, mais ce qui est soulevé est intéressant. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a toujours cette logique comptable et budgétaire. D'ailleurs, il y a des projections du Conseil d'orientation des retraites montre que, a priori, le déficit devrait être plus permanent que prévu, en tout cas que ce qui était annoncé il y a 2 ans. Donc, il y a besoin de faire des économies. Mais c'est vrai que, paradoxalement, on le voit bien, la difficulté, c'est si vous reculez l'âge légal, ou en tout cas vous incitez à rester plus longtemps, il faut aussi garder les seniors en emploi. Ce qui est une difficulté, c'est dire comment on accompagne les seniors pour rester plus longtemps. On voit que le taux d'emploi des seniors a augmenté, mais le taux de chômage des seniors aussi augmente aujourd'hui en France, et que beaucoup de seniors se retrouvent dans du chômage de longue durée. Donc c'est vrai qu'il y a cet effet phénomène-là. Il y a aussi une étude qui a montré que les dépenses de santé, justement, augmentaient pour justement les actifs les plus âgés, parce que ça a été soulevé. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce raisonnement qu'il faut boucler, macroéconomique, qui est à la fois de dire, oui, il y a une logique budgétaire, mais il y a une logique aussi d'emploi, comment on fait pour garder les seniors d'emploi plus longtemps, comment on fait aussi pour insérer les jeunes si effectivement les places ne se libèrent pas aussi vite. Et c'est vrai qu'on a aussi tendance à comparer avec les autres pays en disant, regardez, les autres travaillent jusqu'à 65 ou 67. Nous, on a aussi une démographie qui n'est pas la même que par exemple les Allemands. On a justement beaucoup de jeunes, même s'il y a un choc démographique, il n'est pas dans la même mesure, la même comparaison que ce qu'on peut avoir en Allemagne, en Italie ou même en Espagne. Et donc c'est vrai que il faut prendre tous ces paramètres en compte, et je comprends bien qu'on là-dessus on change pas du tout de logiciel, quoi.
Et changeons de sujet, nous, pour ce qui nous concerne, avec Dominique. Bonsoir, Dominique.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Dominique, on vous écoute.
Oui, voilà, c'est juste pour laisser un petit commentaire, parce que beaucoup d'intervenants disent la taxe donc d'habitation, on est exonéré, et donc c'est du pouvoir d'achat en plus. Et moi, j'en discute un peu à droite, à gauche, et pour ma part, donc entre 2017 et 2018, ça a augmenté de 16 euros. Donc sur 800 euros, je paye 816 euros en 2018. 2019, je ne sais pas encore. Donc si vous voulez, c'est pas du pouvoir d'achat en plus pour moi. Vous voyez, c'est tous les hommes politiques, tout le monde en parle tout le temps, mais quelque part, c'est quand même, enfin, je sais pas qui en bénéficie, quoi.
Voilà. Merci Dominique, sauf que c'est fini pour Dominique, non, Yael Gauss, désormais, en tout cas, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre aujourd'hui.
Oui, et pour tout le monde d'ici 2022.
Hein, y compris les fameux 20% restants.
Voilà, y compris les 20% restants. Non, là, c'est la bataille qui va se jouer maintenant aussi entre l'État central, le gouvernement et les élus locaux, qui évidemment n'ont pas encore la réponse à la question clé de la suite, c'est qu'est-ce qui va compenser pour les communes demain la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que ça va se reporter sur d'autres impôts locaux? C'est André Léniel à l'AMF hein, et François Baroin qui sont évidemment vent debout pour comprendre. Alors dès la semaine prochaine, les ministres concernés vont recevoir les associations d'élus, mais ça c'est l'autre gros morceau qui démarre. Aujourd'hui, ce que dit le gouvernement quand, comme vous monsieur, vous avez une taxe qui augmente chez vous, on vous dit c'est la faute de l'île locale. C'est pas de la faute, c'est pas de notre faute à nous au gouvernement, c'est dans votre commune, le maire qui a choisi d'augmenter les impôts locaux. Ce n'est pas notre ressort. Mais voilà, il va falloir clarifier cette relation entre État central et communes.
Non, allez-y, Mathieu.
Pour répondre aussi, pour compléter peut-être juste là-dessus, c'est vrai que peut-être certaines communes ont profité pour augmenter leur taux. C'est-à-dire qu'effectivement, l'assiette a été réduite. C'est-à-dire que c'est un tiers de moins sur 2018. Normalement, en 2019, l'auditeur, effectivement, il doit le voir quand même significativement. Et 2020, et cette personne-là, normalement, n'aura plus de taxe d'habitation. Ce qui a été annoncé et qui est nouveau, c'est pour les 20% restants, où on a un calendrier et qui est étalé. Alors, la nouveauté, c'est que c'est étalé sur 3 ans. Ça va jusqu'à 2023. Donc, on voit que, quelque part, il y a des petites touches. On commence à avoir des annonces qui commencent à cranter au-delà du quinquennat sur certaines mesures. Donc, on voit qu'il y a un espèce de prolongement naturel qui va au-delà de 2022. Et ça, c'est un peu nouveau.
Et sur cette taxe d'habitation, ainsi que sur les 27 milliards, notamment d'impôts sur le revenu, il y a la question de Pierre. Bonsoir, Pierre.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Moi, ce qui m'a étonné, c'est le chiffre de ces économies d'impôts qui paraît énorme, les 27 milliards qu'a annoncé Édouard Philippe. Alors moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça comprend, ces 27 milliards. Est-ce que c'est que l'impôt sur le revenu ou est-ce que c'est autre chose? Aucun chiffre n'a été donné pour comment on va compenser ça. Donc je voulais savoir où on en est sur cette question.
Merci beaucoup Pierre. Alors il y a quelques chiffres qui ont été donnés, notamment sur ce que ça représente pour certaines tranches, moins 350 euros pour la première tranche, moins 180 globalement pour la deuxième tranche. Mais effectivement, Françoise Fressos, ça se finance comment tout ça?
Déjà sur le total, je pense que le Premier ministre, il additionne tout ce qui a été décidé, hein, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, les augmentations de primes pour l'emploi et puis la taxe d'habitation, l'allègement de la taxe d'habitation. Comment ça se finance? C'est la bonne question. Le Premier ministre a évoqué quelques réductions de niches fiscales, mais ça fait pas du tout le total. Et au fond, moi, je me demande s'il n'y a pas eu un deal avec Bruxelles, parce que ce que je trouve, c'est que la Commission européenne est très, très... regarde la France d'un très bon œil.
On laissait filer le déficit.
Alors qu'il y a eu 17 milliards d'euros de dépenses nouvelles. Et j'ai l'impression que le deal qu'essaye de tenter Emmanuel Macron et qui est confirmé par son discours hier, c'était de dire je réforme comme jamais, mais vous me laissez un peu de marge de manœuvre sur le budget parce que je peux pas et faire des économies budgétaires drastiques et réformer en profondeur la société.
Et sinon, vous aurez des gilets jaunes chez vous, c'est ce qu'il disait à ses collègues. Hein.
C'est les gilets jaunes. Et puis, plus globalement, il y a toute une réflexion aussi, d'ailleurs, qu'avait Lagarde, hein, Christine Lagarde au FMI, sur la montée du populisme, ces révoltes populaires, qui fait qu'on peut pas trop serrer la ceinture. Alors, la gauche dirait, mais il a qu'à s'en prendre aux riches, oui, sauf que les riches, ils ont des capitaux qui peuvent doivent quitter la France. Donc, je pense qu'il a, il est arrivé à une impasse budgétaire et qu'il essaye de la détourner en disant. Puis en plus, on a des taux d'intérêt qui sont très bas en ce moment, donc c'est pas douloureux. Et c'est l'idée que bon, laissez-moi réformer. Je vous promets que je vais aller le plus loin possible, mais ne m'embêtez pas sur les impôts.
Et qu'est-ce qu'on sur les dépenses Mais qu'est-ce qu'on dira aux Italiens qui viendront essayer aussi eux de donner un budget déficitaire ça risque de rendre les choses un peu compliquées, Mathieu Plane.
C'est vrai que donc l'enveloppe, hein, 27 milliards, hein, c'est quand même beaucoup. Faut savoir que pratiquement la moitié est concentrée sur 2019. Hein. Donc il y a un vrai choc sur 2019. Après, c'est un peu plus étalé. Il y a l'impôt sur revenu, il y a la défiscalisation des heures sup aussi, notamment. La réforme de l'ISF ou la flat tax font partie aussi hein, des 27 milliards. Il y a 5 milliards aussi sur la fiscalité du capital. Non, là où le gouvernement est désormais moins ambitieux, c'est sur la trajectoire du déficit. C'est-à-dire que le déficit va quand même se réduire, sachant que 2019 est une année un peu particulière, parce qu'il y a le CICE et sa transformation, c'est 20 milliards, mais on va se retrouver autour de 2% à partir de 2020. C'est un peu moins ambitieux qu'au début, c'est-à-dire que le quinquennat, il y avait cet objectif de revenir à l'équilibre budgétaire d'ici à 2022. Cet objectif-là, désormais, écarté. Ce qui ne veut pas dire que ce soit la catastrophe. Mais c'est vrai que le gouvernement, et vous l'avez rappelé, bénéficie d'une aubaine extraordinaire, c'est des taux d'intérêt très bas. C'est-à-dire que la charge d'intérêt permet de générer des économies qui se chiffrent en milliards et donc rend beaucoup plus facilement ces mesures budgétaires.
Catherine nous écrit sur franceinter.fr et nous dit « Édouard Philippe n'a pas précisé quels étaient les secteurs concernés par les fameux bonus-malus pour les contrats courts. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'on parle de restauration? Est-ce qu'on parle d'hôtellerie? De quoi parlons-nous exactement? Les fameux... Il a parlé de 10 secteurs, c'est ça? C'est quoi les fameux 10 secteurs bonus-malus? Alors, est-ce qu'on le sait?
Je ne sais pas si... Moi, j'ai pas la réponse. Je sais qu'il a parlé aussi des contrats d'usage pour les autres secteurs. Il y a 10 secteurs qui apparemment seraient les plus utilisateurs de ce type de contrat, mais il n'a pas donné de périmètre effectivement précis sur ces 10 secteurs. On en a 10, donc ça pour le coup c'est précis, mais on n'a pas connaissance pour le moment de ces secteurs.
Enfin, le secteur moi, de la culture aussi, il y a une question dans ce sens-là. Je suis médiatrice culturelle depuis 2007 dans un organisme d'État avec des CDD à répétition. Les secteurs culturels usent et abusent de ces contrats précaires. À quand un réel changement? Est-ce qu'on sait là aussi
Réponse complète, le mardi 18 juin, c'est là qu'avec Muriel Pénicaud, tout sera détaillé avec le Premier ministre. C'est là que l'annonce complète de la réforme sera faite, mardi 18 juin.
Allez, cette question de Catherine. Ne trouvez-vous pas que M. Macron et donc Édouard Philippe aussi font comme s'ils avaient gagné les élections européennes? J'ai entendu M. Ruffin ce matin chez vous, donc c'était sur France Inter, dire si on écoute les résultats des élections, Mme Le Pen devrait être Premier ministre. Qu'en pensez-vous? On aurait déjà en partie répondu à cette question après les résultats, Françoise Fressos.
Je pense qu'on est dans une situation assez inédite, hein, politique, où il y a eu quand même effectivement résultat des élections européennes, où on a en tête Marine Le Pen, et puis en deuxième, Emmanuel Macron, qui au fond risquait quand même énormément sur ces élections européennes. On aurait pu avoir une sanction très très forte après le mouvement des Gilets jaunes. Or, l'électorat macroniste résiste. Quand vous êtes Premier ministre et que vous êtes dans cette situation-là, quand en plus, au cours des derniers jours, vous êtes celui qui incarne au fond le ralliement de certains élus de droite à la République En Marche, vous poussez votre avantage. Vous n'allez pas dire bon, on va s'arrêter là. Et voilà. Donc, je pense qu'Édouard Philippe, et là, il est assez habile parce qu'il joue pas du tout l'arrogance, il joue pas non plus du tout il est pas du tout vindicatif. Il dit voilà, moi je suis là pour réformer, c'est mon mandat, c'est ma marque de fabrique. Donc il pousse son avantage en essayant de dépassionner au maximum, en essayant d'éviter l'arrogance des premières années. Mais je pense que son chemin est tracé. Il doit essayer d'élargir autant qu'il peut la majorité. Et le débouché naturel en ce moment, c'est la droite.
Yael Gauze, est-ce qu'on peut dire au fond que cette séquence gilets jaunes a été remportée? Ou pas.
Non, remporter, ça, enfin, si vous placez dans une perspective de match, c'est très compliqué parce que au-delà des quelques milliers de gilets jaunes résiduels à la fin sur les derniers samedis, ça dit des choses beaucoup plus profondes dans la société française.
Mais d'accord.
Et d'ailleurs, on le voit dans les enquêtes d'opinion. À chaque fois, ça s'est réduit sous les 50%, mais très longtemps, le mouvement a été majoritaire dans l'opinion, le soutien au mouvement. Et vous allez voir dans les semaines qui viennent les sujets sociaux, économiques et sociaux lourds qui vont être portés sur l'assurance chômage, les retraites ou les économies encore inconnues et non précisées par Édouard Philippe pour arriver aux baisses d'impôts, ça va turbuler encore et toujours. C'est normal, on est dans un État avec un déficit important, ça va turbuler.
Ça va turbuler.
Ouais, encore. Et pour ce qui est d'Édouard Philippe, effectivement, il gagne, un deuxième round. Il va durer. Il est parti pour durer, là, Édouard Philippe. La question, c'est de savoir à quoi va-t-il servir dans l'élargissement. Il est dans une position intéressante, sans étiquette. Il n'est pas La République en marche, il est juste ancien jupéiste. Mmh. Donc ça lui met en position charnière pour attirer à lui, effectivement, d'autres chapelles de la droite en perdition, d'autres centristes, d'autres UDE, Union des démocrates écologistes, proche de François Hollande, qui était aussi dans cette galaxie-là. Ça lui met dans une position centrale et qui peut le faire durer.
Il dure, François Fressoz, aussi parce qu'il n'y en a pas d'autres, des profils à la Édouard Philippe, parce que c'est aussi la raison pour laquelle il dure, ce garçon, ou pas ?
Ah, je pense qu'il y a eu un problème au mois de décembre où, où il a été franchement question de le changer, parce qu'il y avait une impasse, et puis on sentait quand même des tiraillements forts entre l'Élysée et Matignon sur jusqu'à quel point il faut rester crispé sur la taxe carbone. Je pense que ce qui a sauvé Édouard Philippe, c'est finalement le grand débat. C'est-à-dire que grâce au grand débat, Emmanuel Macron ait retrouvé une sorte de dialogue avec la population et qu'il surtout soit remonté de la population des demandes très précises. Et à partir de ce moment-là, alors après, il y a eu le sujet des européennes, c'est-à-dire... Est-ce que Édouard Philippe va rester après les européennes? Bah oui, parce que finalement il y a eu un transfert d'électorat de la droite vers La République en marche.
Et qu'il n'y a qu'un point d'écart à la fin.
Voilà.
À peine. Alors que s'il y avait eu 5 points, il sautait.
Et donc il est pour le moment l'homme de la situation. Et donc il va jouer sa carte autant qu'il peut. Mais ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a quand même il donne le cap. Il est assez cohérent avec lui-même. Ce qu'il doit montrer aussi, c'est le besoin de proximité, c'est-à-dire on arrive à répondre aux besoins de proximité et d'efficacité, donc réforme de l'État, pas facile à faire. Et puis, il y a toute cette idée de comment est-ce que je vais vendre toutes ces réformes nouvelles sur une société qui reste quand même très éruptive et puis surtout une société qui est vraiment coupée en deux. C'est-à-dire que vous avez ceux qui vont très bien, ils votent Macron, et ceux qui vont pas bien, ils votent Le Pen. Et donc, ça fait quand même une société coupée en deux.
Et ça, c'est le cas effectivement depuis bien avant, et depuis notamment les présidentielles, ce clivage-là était déjà exactement le même. Mathieu Plane, vous vouliez...
Oui, sur Édouard Philippe, je pense qu'aussi il est resté toujours loyal, ce qui est quand même aussi un point assez fort. Et surtout, changer de Premier ministre, mais pour changer quoi ? C'est-à-dire, est-ce que on voit qu'il y a quand même une continuité depuis le début du quinquennat ? Alors c'est vrai qu'il a été extrêmement heurté par la crise des Gilets jaunes et les mesures qui ont été annoncées, mais qu'il y a peut-être aussi une accélération de calendrier de certaines mesures en direction du pouvoir d'achat. Mais globalement, on reste sur quelque chose qui est assez proche du programme présidentiel, hein. Quand on regarde, et finalement, Édouard Philippe applique ce programme-là à quelque chose près, avec des ajustements, bien sûr. Mais donc, ça voulait dire un nouveau Premier ministre, ça veut dire il a plus d'autonomie. Est-ce que, justement, il va plus à droite, plus à gauche? Là, on sait où va Édouard Philippe, et à mon avis, c'est assez cohérent avec le projet d'Emmanuel Macron.
Il y a le gouvernement de retourner au standard.
Il donne des gages. Vous avez vu sa conversion, sincère ou pas, mais en tout cas, ça va l'air sincère aujourd'hui, écologique, et sa conversion aussi à des sujets sociétaux qui ne sont pas du tout sa tasse de thé au départ, quand on connaît le député.
On va y aller. À
LR,
la PMA.
Qu'il était, la PMA, dans le calendrier parlementaire, c'était pas du tout acquis encore hier soir. Donc là, effectivement, il envoie aussi des signaux à cette aile plus à gauche, plus sociétale de sa majorité.
On ira dans un instant, je voudrais qu'on écoute Marguerite avant. Bonsoir Marguerite.
Oui, bonsoir à vous. Et voilà, là, moi j'avais des inquiétudes pour l'avenir des petites communes qui se voient privées d'une manne substantielle avec, pour certains, la suppression de la taxe d'habitation, aussi bien pour certains, parce que Dieu merci pour les maires des petites communes, et encore une taxe d'habitation qui leur est versée, mais quid de leur avenir? Est-ce qu'on va avoir une fusion, et c'est peut-être le souhait du gouvernement pour avoir la mainmise sur la France rurale? Moi, je n'ai que des inquiétudes de ce point de vue-là. Et puis, je me dis, quand on gouverne à court terme, quand on fait des promesses qui ne sont pas provisionnées, eh bien, on est quand même dans un sacré pétrin. Et je trouve que c'est fort regrettable que l'on promène monts et merveilles sans avoir un sous-vaillant.
Merci voilà. Marguerite pour cette remarque et pour votre question. Françoise Fressoz pour y répondre, et notamment sur les suppressions des taxes, est-ce que c'est pas une manière de réduire les pouvoirs des maires, de les avoir à la main? On a bien vu jusqu'à quel point il essayait de les remettre dans le jeu, au contraire, pendant l'épisode des Gilets jaunes, parce qu'il s'est rendu compte qu'il en avait besoin, effectivement, mais pour faire quoi après ça?
Alors, sur la taxe d'habitation, c'est quand même un mouvement continu depuis des années, que le fait que l'État reprenne à sa main la fiscalité locale, qui est devenue extrêmement compliquée. Souvent il y a des abattements, mais au fond c'est l'État qui finance à la place de la collectivité locale, et donc au fond moi je pense qu'on va aller vers un système beaucoup plus national d'impôts, ou sans doute des impôts nationaux, une tranche de ces impôts nationaux serviront à alimenter les communes. Sur l'inquiétude concernant les petites communes, moi ce que j'ai noté quand même, c'est la volonté du Premier ministre et du Président de la République de s'appuyer sur les maires dans la période actuelle. Mmh. Il a annoncé un projet de loi sur les maires. Je pense qu'il faut attendre la déclaration de politique générale au Sénat demain matin du Premier ministre, parce qu'on en saura plus. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment envie de s'appuyer sur les maires. Pourquoi ? Parce qu'au fond, dans toute cette remise en cause des hommes et femmes politiques, les maires sont ceux qui résistent le mieux. Donc je pense qu'il va vous tendre la main et que ça ne sera pas la guerre comme ça a pu apparaître il y a 2 ans.
Vous parliez tout à l'heure, Yael, des réformes sociétales. On a ce mail sur franceinter.fr qui dit « S'il vous plaît, arrêtez de parler de PMA. Combien de personnes sont réellement concernées ? Quid des réformes sur les retraites, le chômage, la PMA les occulte ? » Alors, je ne sais pas si la PMA les occulte. En même temps, ça a été effectivement là aussi une vraie promesse de campagne. Et ma foi, plus ça ira vite, plus on parlera d'autre chose. Mais on est en contre-culture, effectivement, vous le disiez, chez le Premier ministre là-dessus.
Oui, il y avait une très forte pression, notamment d'anciens députés PS devenus marcheurs en 2017. Comme autour de Guillaume Chiche, notamment député des Deux-Sèvres, pour pousser à ce que ce soit dans le calendrier le plus vite possible, parce qu'une fois que vous avez passé les municipales, vous entrez dans une autre zone, qui est une zone de primaire ou de présidentielle, et qui ne facilite pas le passage de réformes clivantes. Mm-hmm. Le sera-t-elle celle-là ? On verra.
J'allais poser la question, est-ce vraiment une réforme clivante, d'ailleurs ? Il y a beaucoup de bruit, mais parfois, exactement, pas dans la société.
Entre les politiques, oui.
Mais ni dans l'électorat.
Ce qui est très intéressant, c'est la façon dont Édouard Philippe l'a présenté, c'est-à-dire qu'il en a fait il ne veut pas en faire du tout un chiffon rouge, hein, contrairement à François Hollande qui en avait fait une arme politique. Et il a mis en valeur les 3 ministres qui sont sur les lois bioéthiques, qui sont des lois très importantes, en citant Nicole Belloubet notamment et Agnès Buzyn. Et comme s'il voulait s'appuyer sur la sagesse de ces femmes pour dire on peut être capable d'avoir un discours et un débat de société apaisé sur ces sujets qui sont quand même très importants.
Mais parce que est-ce que ça ramène vraiment la gauche ces sujets-là ? Parce qu'on a l'impression au fond que la société française est assez...
Il y a des coupures au sein de la gauche aussi. Hein. Mmh. Il y a eu des coupures au sein de la gauche sur notamment le risque de marchandisation. Il y a beaucoup d'élus de gauche qui sont très réticents.
Il y avait un club qui s'appelait les Poissons Rouges, ou Poissons Roses, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, autour de Jean-Pierre Mignard qui mettait en garde sur les questions de filiation.
Mais sur la PMA, je ne sais pas s'il y a réellement un clivage droite-gauche sur un sujet comme la PMA, non ?
La PMA, ça a l'air d'être assez admis. Après, est-ce qu'il y a des pressions pour aller plus loin et voilà. Mais en tout cas, l'idée d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, c'est d'essayer d'aller dans ce débat de façon la plus apaisée possible.
Et on verra ça donc assez vite. Hein. Ce sera à la fin du mois de septembre, enfin en Conseil des ministres au mois de juillet, à la fin du mois de septembre, après tout le calendrier qui s'enchaîne. Merci à tous, ça nous donnera l'occasion de nous revoir moult fois. Merci à tous et portez-vous bien.